Un air d'actu avec Serge Carrel.
Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. La procréation médicalement assistée accordée aux lesbiennes induira auprès des enfants l'idée que les pères se désintéressent de leur progéniture. Le droit de connaître et sa mère et son père biologique sera bafoué. L'enfant est instrumentalisé en vue de la réalisation de soi. Voilà quelques-unes des objections que le réseau évangélique suisse oppose au mariage pour tous. Un des objets de votation au plan fédéral le 26 septembre prochain. Madame, Monsieur, bienvenue. Stéphane Klopfenstein, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur adjoint du réseau évangélique suisse. On ne peut pas dire qu'au réseau évangélique, vous ayez fait de ce sujet de votation un objet de militance acharnée. Vous avez publié votre prise de position officielle sur votre site en fin de semaine dernière. Vous n'aviez aucun représentant francophone à Berne lors du lancement de la campagne de votation contre ce mariage pour tous. Alors, que se passe-t-il du côté du réseau évangélique ? La cause est perdue d'avance ?
La cause n'est pas perdue d'avance, sinon je ne pense pas qu'on serait... qu'on ferait ces communiqués, qu'on serait présent actuellement. On l'a fait un peu de manière progressive. D'une part, on n'a pas non plus, au départ, on n'a pas voulu s'impliquer directement. Donc, il y avait un comité d'initiative qu'on a soutenu, mais on n'a pas voulu, comme pour des thèmes, je dirais, assez politiques, on n'a pas voulu nous-mêmes nous impliquer directement dans la campagne, mais on l'a soutenu. Donc, déjà au mois de janvier, quand il y avait le lancement du référendum, on avait aussi communiqué clairement qu'on soutenait cette démarche. Et maintenant, eh bien voilà, on est aussi, on a travaillé étroitement aussi avec l'Alliance évangélique suisse. Donc c'était un projet qu'on a fait ensemble. Et on a aussi à la conférence de presse notre délégué de l'Alliance évangélique suisse, c'est lui qui représente aussi finalement la voix de toute la Suisse et aussi de la Suisse romande. Donc je pense pas qu'on est allé. Je pense qu'on se bat et c'est je pense maintenant ces dernières lignes droites qu'il faut se battre et qu'on essaye aussi de faire passer nos arguments pour dire non à cette initiative.
Lorsque vous parlez d'Alliance évangélique suisse, c'est la branche suisse-alémanique de l'Alliance évangélique au plan national.
Exactement.
Et donc, votre représentant, c'était Marc Yost, un député PEV au Grand Conseil bernois.
D'accord. Lui-même aussi secrétaire général de l'Alliance évangélique suisse, donc Schweizerische Evangelische Allianz, ça c'est le pendant alémanique. Et le réseau évangélique suisse, c'est le pendant roman. Et nous avons une association aussi fêtière de ces deux entités. Et quand il y a des projets comme celui-là, nous mettons très souvent aussi ensemble pour agir.
Alors, vous avez publié un argumentaire qui s'intitule « Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère ». On le voit tout de suite. Finalement, ce que vous reprochez à cet ajout au niveau du Code civil, c'est finalement non pas l'extension du sens traditionnel du mot « mariage », mais vous souhaitez avant toute chose défendre les enfants.
C'est exact. On estime que c'est surtout sur ce point-là que par rapport, je dirais, au mariage pour tous, nous estimons que là, il y a déjà pas seulement de choses, c'est avec le partenariat enregistré, donc les droits, beaucoup de droits sont quand même similaires pour les couples hétérosexuels et homosexuels. Et ce qui va plus loin ici, c'est tout ce qui est PMA, procréation médicalement assistée, don de sperme, adoption, et c'est là qu'on met en avant finalement, on oublie un peu l'enfant là-dedans. L'enfant a droit à un père et une mère. On estime aussi que les hommes sont les meilleurs pères et les femmes les meilleures mères. Et je pense que par rapport aussi aux droits de l'homme qui disent clairement que l'enfant a droit à connaître son père et sa mère, c'est un droit qu'il a. Et ici, ce sera plus le cas, si, en particulier si on permet aussi le don de sperme pour les couples lesbiens. L'enfant est un peu celui qui est perdant dans toute cette histoire, j'ai envie de dire.
Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'au niveau de l'éducation et de l'accompagnement des enfants, ça va vraiment changer quelque chose que deux femmes ou deux hommes s'occupent d'un enfant en lieu et place d'un couple hétérosexuel ?
Ce qui est étonnant ici dans le débat, dans beaucoup d'autres domaines, on parle de diversité des genres aussi, que ce soit dans le travail, que ce soit il faut des hommes, des femmes, il faut une diversité finalement pour arriver à un certain équilibre. Et là, quand on parle maintenant d'un enfant, tout à coup on dit ok, si c'est deux femmes qui s'en occupent ou un couple homosexuel, il n'y a pas de problème, ses besoins sont comblés, alors qu'on dit non. Finalement, l'ordre créationnel aussi, c'est un homme, une femme, Dieu créa l'homme et la femme, le couple qui est complémentaire. L'homme et la femme apportent les deux quelque chose. Et je pense que c'est cette complémentarité qui pourra aussi le mieux combler les besoins de l'enfant. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup de ce sujet-là, des besoins de l'enfant, on est certainement qu'au début. On n'arrive pas non plus encore aujourd'hui à appréhender les conséquences que ça aura à long terme sur les enfants qui seraient éduqués par un couple homosexuel. Je pense que là, on manque encore beaucoup de connaissances et on a l'impression qu'il pourrait y avoir ici des manques aussi, et puis voir des déséquilibres, des choses délicates pour l'enfant lui-même, qui tous ses besoins ne seraient pas suffisamment comblés pour aussi s'enraciner, pour trouver sa place, pour trouver un équilibre dans sa vie.
Alors, dans l'argumentaire du réseau évangélique suisse, ce qui est intéressant, c'est que l'affirmation du fait que le mariage, par définition, est un terme réservé à des couples hétérosexuels, n'intervient qu'en avant-dernière position de votre liste des arguments. C'est difficile aujourd'hui de s'opposer à ceux qui voient dans le mariage la reconnaissance d'un amour entre deux êtres, et que cet amour soit hétéro ou homosexuel.
Alors c'est peut-être plus difficile, c'est vrai que tout le combat aussi, la reconnaissance des couples homosexuels, d'arriver aujourd'hui avec le modèle traditionnel du couple hétérosexuel homme et femme, c'est plus tellement dans le vent, ça on le voit aussi. Toutefois, je pense que cette affirmation de dire que le mariage, nous ne s'oppose pas sur le principe qu'un couple homosexuel puisse s'allier, puisse faire une alliance, puisse avoir des droits, on ne s'oppose pas, mais on dit à un moment donné, le mariage, on le considère par le fait aussi que, je dirais naturellement, c'est entre un homme et une femme, un couple hétérosexuel qui a le potentiel de procréation. Alors là, c'est peut-être un peu l'ancienne école, mais dans la Genèse, on parle clairement aussi, l'homme et la femme ont été créés pour se reproduire, pour se multiplier. C'est le potentiel simplement naturel, biologique, voulu par le Créateur, c'est qu'il y ait un homme et une femme, et que c'est de cette union que peut jaillir la vie naturellement, qu'il y a le potentiel. C'est là que dit le mariage, on souhaite qu'il soit réservé là, parce qu'il y a une dimension supplémentaire qu'un couple homosexuel, par nature, j'ai envie de dire, n'a pas.
Mais est-ce que vous êtes hostile finalement au réseau évangélique, à la reconnaissance du fait que l'amour entre deux êtres suffise, et finalement qu'ils soient hétéro ou homosexuel, peu importe, on peut valider cet amour-là en l'appelant mariage et en lui donnant un statut dans le code civil?
Alors l'amour d'un homme pour l'autre, on estime que qu'actuellement avec le partenariat enregistré, c'est suffisant pour finalement pour que cet amour puisse aussi avoir une légitimité, et on est aussi on salue finalement la légitimité qui a été donnée déjà avec le partenariat enregistré. Ce qu'on dit, c'est que la phase qu'on va plus loin maintenant, là on entre dans un domaine où c'est finalement pas seulement le couple en tant que tel qui souhaite finalement légaliser son amour, mais c'est la descendance, c'est les enfants, et c'est là qu'on dit ça va trop loin, et raison pour laquelle on s'oppose aussi à cette initiative.
Mais vous savez que ce qui est reproché au partenariat enregistré aujourd'hui, c'est le fait qu'il ne supprime pas toutes les discriminations, et au nombre de celles-ci, à l'endroit des couples homosexuels, là, il y a le refus de l'adoption, le refus de la naturalisation, et bien entendu la PMA. Pour vous, en tant que réseau évangélique, vous n'entendez pas que des gens se sentent discriminés à cause de cela ?
Alors on peut l'entendre que des gens se sentent discriminés. Nous, on met l'accent à un moment donné sur finalement les conséquences derrière. Et c'est vrai que ces droits ne sont pas encore, on ne peut pas dire qu'il y a une équivalence, c'est la raison pour laquelle il y a cette initiative. Mais on voit aussi finalement que si on ouvre, et ça sera certainement la prochaine étape qui serait demandée si l'initiative devait passer, si on ouvre la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens, il n'y a plus de raison qu'on ne l'ouvre aussi pas pour les hommes, les couples homosexuels.
Donc ce soit là, la gestion pour autrui.
Là, on entre vraiment dans un domaine finalement qui n'est pas voulu par le peuple non plus. La procréation médicalement assistée, ou plutôt la gestation aussi
pour autrui,
ça, le peuple suisse et aussi la politique suisse, elle a aussi dit clairement qu'elle ne souhaitait pas que cela entre en vigueur aussi en Suisse. Donc cette prochaine étape, elle est déjà en guillemets programmée, alors qu'aujourd'hui, c'est je crois, la grande majorité ne souhaite pas, le peuple s'est même prononcé là-dessus, sauf erreur, ou en tout cas le Parlement, pour dire cette étape, on ne la souhaite pas finalement. Par rapport aussi, le mot central est certainement aussi ici, les besoins de l'enfant.
Stéphane Klopfenstein, je rappelle que vous êtes directeur adjoint du réseau évangélique suisse, hein, qui s'oppose à cette extension du mariage à toutes les sortes de couples. Si vous aviez un argument à mettre en avant pour nous convaincre du fait qu'il faut glisser un non dans les urnes, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous mettriez en avant?
Un enfant a besoin de grandir dans un environnement où il connaît, ou en tout cas il a la possibilité de connaître ses parents biologiques, hein, son père et sa mère. Cette initiative tend finalement à dévaloriser ou à ne pas assez mettre valeur aux besoins d'un père aussi pour un enfant. Et si le père, c'est simplement une semence qui a été donnée sans connaître finalement qui est derrière, sans qu'il y ait une possibilité de relation, ça serait pour un enfant quelque chose qui lui manquerait certainement. On voit aujourd'hui dans notre société le manque de pères, et on dit des fois manque de pères, manque de repères aussi, et il risque d'avoir aussi des manques de repères plus grands. On favoriserait aussi une société avec moins de pères, et on valoriserait aussi moins le père si on disait oui à cette initiative. Donc l'enfant doit être mis au centre, et l'enfant a besoin d'un père et d'une mère, et les hommes sont certainement les meilleurs pères et les femmes sont certainement des meilleures mères pour lui.
Alors Stéphane Klopfenstein, on s'accorde quelques instants de pause avec un gospel Sweet Fellowship du groupe A Cappella.
Fellowshipping with one another as we're walking in the light.
Friendship for walking when we
fellowshipping with one another as we're walking in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. There's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other,
to each other,
you can feel His love inside.
We keep on smiling when we give.
When we give our hearts to each other,
to each other,
you can feel His love inside. For there's nothing as sweet.
Alors Stéphane Klopfenstein, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du réseau évangélique suisse, le réseau évangélique qui a publié une prise de position contre le mariage pour tous, une prise de position intitulée « Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère ». Alors, ce qui est frappant autour de cette campagne, durant ces derniers mois, ces dernières années, c'est de voir combien le milieu chrétien, Stéphane Klopfenstein, se divise autour de cette question. On a d'un côté les réformés qui ont mis sur le marché une nouvelle lecture des textes bibliques, et les évangéliques et les catholiques qui sont adeptes d'une lecture plus traditionnelle, plus classique des textes. Est-ce que finalement ce débat autour de l'homosexualité et du mariage pour tous va laisser des traces indélébiles dans le paysage ecclésiastique suisse?
Effectivement, ça donne beaucoup à discuter. Et puis, au niveau des églises chrétiennes, on n'est pas unis. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les positions sont assez tranchées et différentes selon les églises. Au niveau des églises évangéliques, je pense globalement, le soutien est là pour dire non à cette initiative.
Bon, c'est quand même assez surprenant. La semaine dernière, la Fédération romande d'églises évangéliques a publié sur son site lafrey.info un texte disant qu'elle n'allait pas prendre position sur la question. Donc, quelque part, on sent une certaine différence de posture entre vous et Lafrey.
Alors voilà, je ne veux pas parler à la place de Lafrey. Lafrey a pris cette décision de ne pas prendre position. Elle ne s'est pas opposée non plus. On n'a pas non plus coordonné nos réponses à ce niveau-là. Ce que je peux dire, c'est que globalement aussi par rapport à ce qu'on remarque parmi nos églises évangéliques, je pense que la grande majorité n'appuie pas cette initiative. Ce qui est actuellement un peu peut-être une discussion plus intense, c'est globalement l'homosexualité et comment l'Église et puis comment fait face, accueille, reconnaît les couples homosexuels. C'est plutôt là, je pense, que le débat est actuellement, où les Églises sont aussi mises au défi d'une certaine manière par rapport à cette réalité. Et c'est là que les positions sont, peuvent être assez différentes, assez tranchées selon la lecture qu'on a aussi de la parole de Dieu.
Vous percevez, oui. Disons, comment est-ce que vous percevez les francs ou les oppositions autour de cette question ?
Alors voilà, il y a
au milieu évangélique, s'entend bien entendu.
Au milieu évangélique, il y a une, je pense qu'il y a une, on s'entend tous pour dire l'accueil des personnes, l'accueil de toute personne sans condition. Ça fait pas, c'est la base de l'évangile aussi, la base de ce que Jésus nous a enseigné, d'accueillir chacun de manière inconditionnelle. Maintenant, c'est toute la question un peu de qu'est-ce que ça représente l'homosexualité et comment elle est présentée aussi dans la Bible. Si on prend les textes, les quelques textes qui parlent de l'homosexualité, c'est clairement quelque chose qui est condamné par Dieu, quelque chose qui est une abomination, des relations contre nature. Alors ça, c'est une lecture très littérale et sur cette base-là, beaucoup de nos églises disent, bien voilà, l'homosexualité est mal, est un péché et qu'il faut combattre comme aussi les autres péchés qui nous collent à la peau et contre lesquels on doit aussi lutter. Et après, une lecture moins littérale, c'est l'option qu'a pris aussi en particulier l'Église évangélique réformée suisse, de dire une lecture moins littérale, que ces textes étaient plus contextuels et qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, finalement, si en particulier aussi, si le politique reconnaît cette union, il n'y a plus de raison que l'Église ne les reconnaisse pas, voire même qu'elle aille plus loin et qu'elle bénisse ses couples.
Mais là, vous positionnez le débat entre réformé et évangélique et pas au sein du milieu évangélique lui-même, puisque, me semble-t-il, aucun évangélique jusqu'à maintenant a dit que l'homosexualité était dans le plan créationnel de Dieu.
Effectivement. Donc, il y a un peu cette opposition entre l'Église réformée et les Églises évangéliques sur ce point. Nous ne sommes pas les seuls aussi, nous avons aussi l'Église catholique romaine qui s'oppose aussi, en particulier aussi à cette initiative actuellement. Donc on est plutôt en ligne aussi avec l'Église catholique romaine sur ce point, on n'est pas seul. Par contre après, il peut y avoir des nuances aussi sur ce point de vue-là. Il y a certains discours dans le milieu évangélique qui simplement reconnaît qu'il peut y avoir des personnes qui sont attirées par le même sexe, que c'est pas quelque chose, c'est pas en guillemets, sans forcément donner d'explications pour quelles raisons elles sont comme ça, mais c'est une réalité, et qu'il faut donner une place à ces personnes, avec des décisions que ces personnes prennent. En l'occurrence, il y a des positions qui disent « Ok, ces personnes, alors on les reconnaît pleinement, mais pour être conformes aussi à la Bible, elles doivent rester célibataires et faire vœu de chasteté aussi à ce niveau-là. Pour rester, et dans ce sens-là, elles considèrent que l'homosexualité est interprétée au sens plus étroit du terme, l'homosexualité telle que la Bible la condamne, une homosexualité quand il y a des relations sexuelles. C'est ça que la Bible peut condamner, sans condamner finalement le fait que on peut, et il y a des personnes, je suis premier aussi à le dire, je reconnais aussi que ça peut être, il y a une partie des gens qui ont ça en eux. Maintenant, est-ce que c'est dès la naissance ou est-ce qu'elle vient plus tard? Je pense que le débat il est encore assez ouvert à ce niveau-là. Mais la voie, c'est de dire, ok, si ces personnes, ce que Dieu leur demande, c'est de rester chaste et célibataire, en l'occurrence.
Stéphane Klopfenstein, est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans tout ce débat, finalement, certains évangéliques n'en ont pas ras-le-bol d'être enfermés dans des questions d'éthique individuelle? Et c'est vrai qu'il y a de cela à peu près 6 mois, on débattait quelque part d'un thème similaire autour de la pénalisation des propos homophobes. Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol, finalement, que les évangéliques n'apparaissent dans l'espace public plus que sur des questions d'éthique individuelle et sexuelle?
Un ras-le-bol de qui?
Ben, un ras-le-bol en interne, un ras-le-bol de dire, mais finalement, les évangéliques, leur foi, leur conviction fondamentale ne se résument pas à ces questions-là. Et quelque part, finalement, arrêtons de systématiquement nous profiler dans l'espace public sur ces questions, alors qu'on sait bien que la cause est entendue.
Je ne pense pas qu'il y ait un ras-le-bol. Je pense surtout qu'on est au front et qu'il faut... ces questions sont là, sont réelles. Il faudrait pas, je dirais, à un moment donné, dire voilà, on a le ras-le-bol, finalement on se profile plus, on n'en parle plus, et on laisse ça un petit peu à l'appréciation individuelle des personnes. Je pense quand même qu'il y a des thèmes sensibles qui ont finalement dans nos églises, on a toute une histoire aussi de l'église et des traditions. La société évolue, certes, mais on doit aussi adapter un peu. Mais jusqu'où on adapte, jusqu'où on garde des positions qui ont fait foi jusque-là. Ces questions, on doit se les poser, on ne doit pas...
Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire toujours?
Après, c'est la manière dont on communique. Je pense que là, nous, on souhaite toujours communiquer aussi positivement, pas uniquement dire où on est opposé, c'est non. Mais aussi dire ce qu'on fait. On souhaite aussi être proactif au niveau du réseau évangélique. Pour d'autres sujets, on l'est. On souhaite collaborer. Je prends par exemple le dialogue interreligieux. On est aussi très actif. On souhaite dans ce domaine-là aussi faire entendre notre voix, mais aussi positivement collaborer, être actif, proactif. Et pas uniquement s'opposer à des évolutions de société.
Mais vous le savez, Stéphane Klopfenstein, il y a différentes manières de se positionner dans l'espace public et face à l'État dans le monde évangélique. Est-ce que finalement, on n'est pas trop marqué par un positionnement réformé qui veut absolument faire de l'État une entité un tant soit peu chrétienne? Est-ce qu'on ne devrait pas finalement systématiquement risquer aujourd'hui la minorité et de dire que finalement, nous sommes 3% de la population en Suisse et ce n'est pas nécessaire de se battre sur toutes les questions qui touchent à l'éthique individuelle et où finalement les citoyens aujourd'hui ne souhaitent aucunement que l'État dicte aux individus leur conduite dans leur sphère privée et familiale.
Alors oui, ça serait une approche qui pourrait être faite. Les évangéliques sont plus professants, souhaitent aussi plus affirmer leur foi dans l'idée aussi finalement d'être missionnels, c'est-à-dire aussi de que les gens comprennent et entendent notre foi. Et là-dedans, dans notre foi, il n'y a pas seulement croire en l'amour de Dieu, mais il y a aussi finalement notre foi influence aussi notre comportement et aussi nos positions sur des sujets de société. Et je pense que pour les évangéliques, contrairement peut-être aux réformés, on souhaite que ça reste aussi un thème, sans toutefois revenir à et je pense que là, l'histoire nous montre que ce n'était pas le bon chemin, que l'État devienne, qu'il y ait un mélange entre l'État et l'Église, que les deux choses soient clairement séparées, je pense, est nécessaire, est une bonne chose. Toutefois, je pense que l'État peut toujours entendre et doit, dans certaines mesures, aussi entendre la voix de l'Église. Quand je parlais du dialogue interreligieux que nous avons avec les autres églises chrétiennes actuellement, ce dialogue, il est aussi là pour pouvoir être... On est aussi une voix pour la politique, et la politique nous entend aussi au niveau de ce dialogue interreligieux. L'Église, ou bien la voix de l'Église, ou la voix de la religion chrétienne, pour nous, reste une voix qui est nécessaire de faire entendre, sans avoir l'ambition que l'État redevienne un État chrétien ou un État qui reprennent toutes les valeurs aussi chrétiennes dans ces lois. La séparation de l'État et de l'Église est importante et doit rester ainsi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus se prononcer et plus avoir une position sur des sujets de société comme celui de l'homosexualité.
Stéphane Klopfenstein, merci beaucoup de vous être rendu disponible. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du réseau évangélique suisse et que votre association regroupant des chrétiens issus des églises évangéliques et réformées plaide pour le non au mariage pour tous lors de la votation du 26 septembre. Pour les gens que votre prise de position intéresse, cette prise de position est disponible sur le site evangelique.ch. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.
Merci, au revoir à vous aussi.
Un air d'actu avec Serge Carrel.